Mais il y avait aussi la sirène du tram. Le tram, à Saint-Céré, on l'appelait le TQ. Le TQ, ça veut dire le tramway Quercy. Le TQ était un petit tramway à moteur, bien entendu, à essence, qui faisait le parcours Saint-Céré-la gare de Bretonneau-Biard le long de la route avec des rails de 60, des petits rails, et on embarquait à Saint-Céré le soir. Et ce TQ avait une sirène qui appelait de loin, une sorte de corne, de telle sorte que de loin, on parlait de la sirène. Et la sirène, c'était bien quelque chose, mais c'était autre chose. C'est que la sirène, ça avait été, dans des vieux textes anciens, une sirène, c'était une sorte d'être vivant qui poussait des cris au bord de la mer et que si on s'approchait trop et qu'on veuille aller vers la sirène, on risquait d'être attrapé et d'être noyé. Et la sirène là, de telle sorte que cette sirène qu'on entendait dans des campagnes là, impressionnait des gens parce que on savait que c'était dangereux. Et au lieu d'être un être imaginaire, je dirais pas préhistorique, des vieilles légendes qu'on trouve peut-être pas dans la Bible, mais il doit pas s'en manquer beaucoup. Et oui, et alors, il y avait des choses. Que voulez-vous? Ce sont des vieilles traditions, des vieilles croyances qui s'installaient facilement à cause de l'ignorance. Car les gens étaient très peu nombreux, ceux qui savaient lire. Les quelques-uns qui savaient lire étaient des gens qui n'avaient suivi que quelques instructions, petites instructions religieuses, qui n'avaient qu'un but simple, apprendre à lire avec un alphabet et à faire des prières. Le reste, la connaissance matérielle, scientifique, mathématique, etc., il y avait zéro. Rien. Et je vous dirais que j'ai eu en main le livre de lecture de ma grand-mère. À Carennac, elle était dans une famille où personne ne savait lire, bien sûr. Mon arrière-grand-père était tisserand et sa femme, c'était pareil, ne faisait rien que s'occuper de monter le métier, les fils pour le métier, d'aller acheter ou vendre les fils de chanvre, car on cultivait le chanvre dans la vallée de la Dordogne. Là. Et là, il y avait peu de connaissances. Mais ma grand-mère avait reçu en cadeau un livre et elle ne savait pas lire, mais une des sœurs lui avait donné ou vendu, je ne sais pas, un petit livre de lecture qui n'était rien. Alors, il y avait les lettres de l'alphabet, quelques mots ou d'autres, et puis quelques petits récits religieux. Ce livre-là, qui était en somme en utilisé avec les élèves de l'école libre à l'époque, chez les sœurs, je l'avais chez moi. Et j'étais déjà instituteur, je l'avais au grenier de notre maison, et là, on a changé d'habitation, la famille avait changé d'habitation, la vieille maison avait gardé quelques bouts de meubles, des bricoles. Il y avait une famille qui venait passer un mois de vacances à Carennac, un professeur et sa femme, était-elle professeur ou pas, je ne sais rien. Eux venaient de Tunisie. c'était des Français qui étaient en Tunisie, ils venaient passer un mois de vacances à Carène. Et on leur avait loué cette maison. En repartant, ils avaient farfouillé au grenier et ils m'avaient emporté ce bouquin. Ça fait que le livre de lecture et de, je dirais, de, d'initiation religieuse de ma grand-mère a disparu et que je ne l'ai plus.
Dommage.
Eh oui.
C'est dommage.
Ah, mais j'aurais, je le regrettais parce que c'était une chose. Et c'est pour ça que dans toutes nos campagnes et partout en France, la religion catholique, qui était la religion dominante, et les autres, les protestants, il y avait quelques coins, mais dans l'ensemble, à la fin du siècle dernier, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas beaucoup. La religion catholique possédait, elle, le monopole de l'enseignement. Et ce monopole de l'enseignement faisait que les gens très modestes en profiter parce que ça n'était pas coûteux, ça allait bien, et que seuls bénéficiaient de l'enseignement un peu détaché de l'enseignement catholique, les bons bourgeois qui, eux, faisaient la médecine, qui faisaient autre chose. La paysannerie n'avait rien. Et alors, le seul point qu'il y avait, c'était là où il y avait des sœurs religieuses, un ordre religieux, deux ou trois sœurs, il y en avait... Bon, au moins dans une commune sur deux. Une commune sur deux ou presque. Et il y avait, quelquefois, pour les garçons, dans un endroit plus important. Et c'était de là qu'étaient venus les mouvements, l'école religieuse de Gramma. Oui. Car sur notre nord du département du Lot, les frères de Gramma, l'école des frères de Gramma, était devenue une école importante qui avait beaucoup de pensionnaires, qui avait des enfants garçons de, à partir de 10 ou 11 ans qui allaient chez eux pour faire passer le certificat d'études et pour les faire continuer un an ou deux après, quelques-uns ayant l'intention de rentrer comme curé dans un ordre religieux ou d'aller dans un séminaire. Oui. Et oui. Alors, ce système d'instruction faisait que seuls les enfants du peuple ne savaient rien. Alors, et alors, ça donnait la place d'entrer à tous les canulars, à toutes les choses, à toutes les bigoteries, à tout ce qu'on voulait, parce qu'il n'y avait pas, si je puis dire, la formation d'esprit, de jugement, pour savoir si ce qu'on apprenait, ça pouvait être vrai ou pas vrai. Dès que ça touchait un peu une idée religieuse, c'était automatiquement accepté. N'importe quoi.
C'était terrible.
Et c'est pour ça qu'à la fin de ce siècle, eh bien, on avait décidé que l'instruction allait devenir gratuite et obligatoire. Le mot gratuite, tout le monde savait ce que c'était. Obligatoire, c'était jusqu'à un certain âge. Pratiquement, elle s'arrêtait à 12 ou 13 ans. Après, il fallait payer. Mais jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans, un enfant pouvait aller à l'école primaire et c'était l'État qui payait les instituteurs. Et ils étaient payés, elle était gratuite. On allait à l'école.
Oui.
Et oui. Oh, ça a été quelque chose. Et alors, à partir...